Bien, chers auditeurs de la Voix de l'Espérance, nous sommes ensemble. Un trimestre vient de s'achever. Un autre a commencé. Trimestre dernier, le prophète Ésaïe nous a fourni tout le matériel nécessaire à notre méditation. Ce trimestre-ci, nous allons nous pencher sur divers auteurs de la Bible. Le sujet principal, le thème à développer, religion et relations humaines. Oh, la religion, les relations humaines. Qu'est-ce que c'est? La religion, c'est le rapport de l'homme avec un être supérieur, ou bien un être prétendu supérieur. En outre, les relations humaines, ça se conçoit. Rapport des hommes entre eux. Alors, comment donner à chacun de ces rapports ce qui lui revient, savoir rapport de l'homme avec un être supérieur ou bien prétendu supérieur, mais ce serait préférable pour nous de dire rapport de l'homme avec Dieu et rapport de l'homme avec son prochain. Pendant les 3 mois en cours, allant du 1er juillet au 30 septembre, nous avons à nous pencher sur la religion et les relations humaines. En attendant, nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Religion et relations humaines. Bien, chers amis, notre vie est tissée de relations humaines. Certaines sont profondes, d'autres superficielles. Certaines sont brèves, d'autres durent la vie entière. Certaines sont purement fonctionnelles, d'autres intensément personnels. Nous entretenons des relations avec toutes sortes de personnes. Conjoints, enfants, famille, amis et voisins, mais aussi avec l'employé de la station-service, nos collègues de travail et le gendarme qui nous arrête pour excès de vitesse. Nous entretenons aussi des relations avec notre pasteur, le directeur de l'école où nous avons inscrit nos enfants, notre employeur et aussi avec notre centre d'impôt. Tout cela est vrai des chrétiens comme des non-chrétiens. La différence entre les non-chrétiens et les chrétiens ne réside pas dans la multiplicité des relations, mais dans le fait que ces relations comportent une importante dimension supplémentaire, la religion. Je répète, la différence entre les non-chrétiens et les chrétiens ne réside pas dans la multiplicité des relations, mais dans le fait que ces relations comportent une importante dimension supplémentaire, savoir la religion. Adventistes du septième jour, nous croyons en un ensemble de doctrines. Nous partageons certaines d'entre elles avec d'autres chrétiens. D'autres nous sont propres et font de nous un mouvement spécial avec un message et une mission particuliers, ou encore avec une mission et un message particulier. Nos doctrines ne sont pas des options. Pas, en tout cas, si notre foi est davantage qu'un sentiment superficiel, ou le vague sentiment qu'il existe une puissance qui nous dépasse, ou encore une force transcendante entrant en nous, avec nous, entrant plutôt en relation avec nous d'une façon ou d'une autre. Formuler autant que nous le permettent les limites du langage humain, les doctrines révèlent comment nous comprenons la révélation que Dieu fait de lui-même. Elle nous aide à mieux percevoir qui est Dieu en tant que Père, Fils et Esprit Saint. Ce qu'il a fait, ce qu'il accomplit actuellement et l'œuvre qu'il achèvera pour nous individuellement et collectivement. Nous avons besoin de doctrine pour saisir quelles sont les implications de notre foi en Dieu et en son plan du salut sur notre façon de considérer la vie en général et notre comportement quotidien. Cependant, le christianisme est sans aucun doute le christianisme adventiste est davantage qu'un catalogue de déclarations doctrinales. Dieu, dans la foi chrétienne, n'est pas une divinité distante et impersonnelle qui ne s'implique pas dans le labeur quotidien du monde et de notre existence. Au contraire, c'est un Dieu personnel, un Dieu aimant qui nous a rencontrés en Jésus-Christ de la façon la plus intime qui soit. C'est ce qu'exprime avec tant de puissance Paul dans son épître aux Philippiens lorsqu'il écrit « Ayez en vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ, lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Reconnu à son aspect comme humain, il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Nous tirons cette déclaration de Philippiens 2, versets 5 à 8. Chrétiens qui m'écoutez, Dieu est un Dieu d'alliance qui se donne la peine d'entrer avec nous dans une relation d'intimité. Il est l'amour personnifié et recherche une réponse à cet amour, réponse qui est adoration et obéissance. Lorsque nous avons établi une relation avec Dieu, ou plutôt, lorsque nous avons permis à Dieu d'établir une relation avec nous, toutes nos autres relations s'en ressentent. Une fois que nous avons entrevu qui est Dieu, que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur et que nous avons fait de l'Esprit notre guide au cours de ce pèlerinage qu'est la vie, notre regard sur le monde change. Il n'est désormais plus de la première importance que les personnes que nous fréquentons soient ou non de la même nationalité, de la même ethnie ou de la même sensibilité politique que nous. Nous nous demanderons d'abord s'ils partagent ou non avec nous la connaissance de la bonne nouvelle. La religion ne se fonde pas sur les œuvres. En d'autres termes, notre position vis-à-vis de Dieu ne dépend pas de nos performances. Nous vivons par la foi au moyen de la grâce. Cependant, une religion qui n'imprègne pas la vie quotidienne est morte et vide de sens. Si la religion avec Dieu n'a pas d'impact sur nos relations avec les autres hommes, nous avons toutes les raisons de nous interroger sur la réalité de notre lien avec ce Dieu. Ce trimestre, nous étudierons de nombreux passages des Écritures dans le but de prendre davantage conscience de l'influence de notre foi sur nos relations avec les autres. Ceux qui sont proches de nous comme ceux qui sont éloignés, nous discuterons de la façon de renforcer ces liens, voire de les restaurer s'ils ont été brisés d'une manière ou d'une autre. Et nous découvrirons en effet que la religion est plus présente au sein de nos relations que beaucoup d'entre nous ne le supposent. Notre sujet numéro 1, créer pour vivre ensemble. En principe, nous devons voir environ 13 sujets. Et le premier, c'est bien celui que je viens de vous annoncer, créer pour vivre ensemble. C'est la première subdivision de notre grand thème, religion et relations humaines. Vivre ensemble. Vivre, c'est quoi? Être en vie. Exemple, les corbeaux vivent très longtemps. Vivre, c'est habiter. Exemple, je vis à la campagne. Vivre, c'est passer sa vie de telle ou telle manière. Exemple, vivre seul. Vivre, c'est se conduire. Exemple, vivre saintement. Cependant, dans l'une ou l'autre de ces indications, il faut être ensemble, c'est-à-dire l'un avec l'autre, les uns avec les autres. Vivre ensemble, en principe, c'est une règle, c'est un principe, quoi. Oui, à la vérité, dans le monde actuel, beaucoup de gens se sentent très seuls. Ils n'ont pas de relation qui compte. Ils n'ont pas le sentiment d'être utile ou aimé, ni l'impression de faire réellement partie d'une communauté. Certains sont mariés et ont même des enfants. Pourtant, au fond d'eux-mêmes, ils se sentent seuls. D'autres ont une vie sociale intense, mais quand ils s'examinent honnêtement, ils avouent être dans une solitude désespérée. Beaucoup de gens vivant dans le même bloc d'immeubles que des dizaines d'autres résidents et rencontrant chaque jour des milliers de personnes dans le métro ou le train de banlieue sont incapables de communiquer avec leur entourage. Pourtant, malgré toute cette sollicitude, il y a l'idéal biblique, vivre en communauté avec sa famille, ses amis, ses collègues, les autorités, les membres de son église et autres. La question qui se pose est la suivante. Comment Dieu désire-t-il que nous parvenions à vivre ensemble? Ouvrons une réflexion à ce sujet. Tout d'abord, au moment de la création, ou plutôt dès les premiers jours de la création, Genèse 2, verset 18, le Seigneur, l'Éternel, a posé le principe de relation, c'est-à-dire de rapport l'un avec l'autre, les uns avec les autres, en disant, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, il est bon que l'homme mène des rapports avec son ou ses semblables. Les deux premiers chapitres du livre de la Genèse nous donnent un aperçu sur ce qui s'est passé quand Dieu a créé la terre. Même si une grande part de la création demeure mystérieuse, tous les éléments essentiels dont nous avons besoin pour nous forger une vision du monde inspirée par la foi sont néanmoins révélés dans ce texte, y compris le fait que Dieu a rendu les êtres humains sociables, destinés à vivre ensemble. En fait, il n'est pas seulement question pour l'homme uniquement de vivre ensemble. C'est un principe pour toutes les créatures animées, les animaux par exemple. Quand Dieu créa les oiseaux, il ne créa pas un seul oiseau, il a créé des oiseaux. Il ne créa pas un seul reptile, il a créé les reptiles. Il ne créa pas un seul quadrupède, il a créé les quadrupèdes. Et à la vérité, en dépit des méchancetés que le péché a apportées, en gros, les bêtes vivent ensemble. Et la question, qu'en est-il des hommes? Le récit de la création souligne que nous ne vivons pleinement que quand nous vivons en relation avec les autres. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En outre, Genèse 1er, verset 28, dit clairement. Genèse chapitre 1er, le verset 28, dit clairement. Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et très peu après, très peu de temps après, nous trouvons une belle déclaration dans Genèse 4, verset 22. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Mes chers amis, il est clair que Dieu avait prévu que l'être humain devait exister en relation avec d'autres. La notion de famille, de partenariat entre un homme et une femme, et de lien entre parents et enfants, faisait partie du contexte originel de la création. S'attacher l'un à l'autre au sein de liens conjugaux et familiaux n'est pas une option parmi tant d'autres, mais le reflet du dessein originel et immuable de Dieu pour le bonheur de l'homme. Cela ne signifie pas qu'un célibataire ne peut avoir une vie heureuse et épanouissante, mais que, selon la perspective biblique, la famille est l'élément basique d'une société saine. Je le répète, la famille est l'élément basique d'une société saine. La famille n'est pas la conséquence de passion romantique, ni le produit d'exigences sociétales, mettant les parents en demeure de fournir à leurs enfants la nourriture et le logement, ni un petit cercle de gens retirant de leur vie commune un soutien émotionnel. La famille est enracinée dans le projet du Créateur, qui est d'éduquer des enfants afin qu'ils communiquent leur foi et leur valeur morale aux générations suivantes. Saper, négliger ou remplacer cette œuvre revient à ruiner le noyau communautaire sans laquelle aucune autre communauté n'est possible. L'un des plus célèbres passages de toute la littérature anglaise déclare ceci, je ne peux pas vous en donner référence, aucun homme n'est une île qui se suffit à elle seule. Chaque être humain est un morceau de continent, une partie du tout. Laissez-moi répéter. Aucun homme n'est une île qui se suffit à elle seule. Chaque être humain est un morceau de continent, une partie du tout. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est un principe. C'est le principe social. Le principe à la base de tout rapport entre des gens créés à l'image de Dieu. La portée sociale de la religion. Oui, nous devons nous y pencher aussi, car nous sommes en train d'étudier religion et relations humaines. Dans Matthieu chapitre 7, verset 12, il est dit, « Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » C'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. En outre, le décalogue, ou encore les 10 commandements que nous tous aimons, sont 10 principes de relations humaines, sont aussi 10 principes de relations humaines. Exemple, honore ton père et ta mère. Oh, belle relation. Tu ne tueras point. Belle relation. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son âne, ni son bœuf, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Bien-aimé qui m'écoutait, y aurait-il des principes sociaux pluriels ou bien des principes sociaux singuliers plus excellents que ces six que je viens de citer? Je ne pense pas. En outre, si nous ajoutons la relation de l'homme avec Dieu, nous allons trouver le comble à ces relations, ou plutôt à ces principes sociaux. Premièrement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand donc tous les hommes servent le même Dieu, la relation entre eux n'est que plus serrée. Ensuite, tu ne te feras point d'image taillée. Quand aucun homme ne dégrade sa nature d'être semblable à Dieu ou bien d'être créé à l'image de Dieu en se prosternant devant une image ou bien en servant une image. Quand tous auront reconnu leur véritable valeur en tant qu'être semblable à Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, immédiatement, ils ne pourront que se valoriser les uns les autres. En plus, le bon Dieu dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Si donc l'humanité entière pratique un saint respect pour le nom de Dieu, combien les hommes se respecteront-ils les uns les autres aussi? Donc, les relations entre nous seront plus huileuses. Enfin, souviens-toi du jour du sabbat pour nous sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Mais dans ce commandement, si tous les hommes travaillent ensemble du 1er au 6e jour, se reposent ensemble le 7e jour de la création, vous voyez combien les relations humaines seront enrichies. Ils adoreront ensemble le même Dieu. Ensuite, étant en repos ensemble, étant au repos ensemble, lequel des deux faut-il dire? Étant en repos ou bien étant au repos? Les deux sont bons, oui, les deux sont bons, car chacun a ses nuances. Et puisque tous se reposent ensemble, ces filles-là, ils vont se chercher, ils vont se communiquer, ils s'entretiendront entre eux, ils parleront ensemble de la gloire de Dieu et des grandeurs, et de la grandeur du Créateur, etc. Et tout cela ne fera que enrichir les relations. On vient d'aimer qui m'écoutait, même si la foi repose en grande partie sur la relation avec Dieu, on ne peut la séparer de la relation avec les autres. Nous vivons en ce monde avec d'autres hommes et notre religion nous indique très clairement comment nous comporter vis-à-vis d'eux. Les adventistes du 7e jour croient profondément que l'homme qui garde les commandements de Dieu doit aussi mener bonne relation avec son semblable. Sinon, sa religion est nulle. Les chrétiens ont parfois tellement mis en valeur le côté social de la religion qu'ils ont réduit l'évangile du Christ à un évangile social, horizontal, qui ne laisse que peu ou pas du tout de place pour l'aspect vertical. La religion avec le Père Céleste, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, le côté social de la religion, ou encore l'aspect horizontal, est bon. Cependant, il sera meilleur si nous pratiquons aussi le côté horizontal, c'est-à-dire les relations de l'homme avec son Dieu. Réciproquement, si quelqu'un essaie de se mettre en contact avec Dieu, en fuyant la société, sa religion est encore nulle. Oui, car ce que je vais dire était de bien, personne ne peut se sanctifier loin de ses semblables. Personne ne peut devenir saint loin de ses semblables. Si je ne vis pas tout près de mon prochain, comment pourrais-je cultiver la patience, la paix,
la bienséance, la courtoisie, la politesse. Il me faut être attaqué par un semblable afin d'exercer ma patience, afin d'exercer ma courtoisie ou ma politesse. Dans le cas contraire, si je vis uniquement pour moi-même et en moi-même et avec moi-même, qui suis-je alors? Un sauvage, oui, un sauvage, mais un sauvage doux. Chrétien, quand cela se produit, notre religion cesse d'être chrétienne. Par ailleurs, notre foi en Dieu doit aussi avoir un impact sur les autres hommes. Sinon, notre religion ne peut pas non plus se définir comme vraiment chrétienne. Lévitique 19, verset 18, nous dit, Lévitique chapitre 19 et le verset 18, le Seigneur l'Éternel a écrit pour nous, tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Laissez-moi répéter. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Et le beau texte de Matthieu 7, 12, que je vous ai déjà cité, savoir. Tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. À ce texte s'ajoute Jacques 1er, le verset 27, qui dit, Jacques 1er, le verset 27, qui nous dit clairement, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Laissez-moi répéter. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Oui, c'est ça. Et je vais répéter. Quand nos relations humaines sont mauvaises, notre religion est sans valeur. Je le dis. Quand nos relations humaines sont mauvaises, notre religion est sans valeur. Nous savons à la vérité que construire une relation exige des efforts. Je le répète. Construire une relation exige des efforts. Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, mais pas ceux qui reçoivent la paix. Non, il faut procurer la paix. Croire en Dieu et s'appuyer sur sa grâce suppose l'engagement d'être attentif à Dieu et à sa volonté à notre égard. Il s'agit de se détourner intentionnellement de tout ce qui est mauvais et négatif. Cela exige aussi que l'on soit déterminé à vivre en harmonie avec sa volonté. De même, des relations harmonieuses ne sont pas le fait du hasard. Construire une relation est quelque chose d'intentionnel. Pécheur vivant sur une planète peuplée d'autres pécheurs. Nous sommes naturellement enclins à nous montrer égoïstes, envieux et jaloux. Défauts qui, s'ils ne sont pas bridés, détruisent toute relation féconde et aimante. Oh, heureux ceux qui procurent la paix. Dans Romains, chapitre 12 et verset 18, il nous a dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La paix que nous devons rechercher dans nos échanges avec les autres n'est pas une simple absence de querelle ou de désagrément. L'idéal biblique de la paix s'enracine dans la notion juive du shalom, qui va beaucoup plus loin que la simple tolérance et inclut un profond intérêt pour les autres. exprimer en soutenant et en valorisant notre entourage. Je veux dire, la paix inclut un profond intérêt pour les autres, exprimé en soutenant et en valorisant notre entourage. N'oublions pas que cela ne nous vient pas spontanément, car ce sont la convoitise, l'envie et le désir de suprématie qui nous sont naturels. Il n'est pas surprenant que nous ayons besoin de l'intervention du Seigneur dans notre vie. Une règle fondamentale pour gouverner nos relations avec autrui. Et cette règle est incluse dans 1 Corinthiens 10, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 10, et le verset 24. Qu'est-ce qu'il dit? Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. 1 Corinthiens 10, verset 24. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Bien-aimés qui m'écoutez, personne ne peut être heureux en lui-même. Nous ne sommes heureux qu'en les autres et que dans les autres. Oui, nous sommes heureux en les autres, mais pas en nous-mêmes. Mon enfant est bon, il se comporte bien, il travaille bien à l'école, il est devenu un homme utile à la société. Je suis heureux en lui, parce qu'au fond, s'il occupe une position honorable, ce n'est pas moi qui occupe cette position d'une manière littérale, mais je me vois en lui et je suis heureux. C'est pourquoi je le dis, personne ne peut être heureux en se renfermant sur lui-même. Nous ne sommes heureux qu'en les autres et elles. Alors, veillez sur les autres uniquement pour leur bien, sans aucune motivation égoïste. Revient à révéler le Christ, dont l'amour pour l'humanité souffrante était totalement désintéressé. Le Christ aimait l'amour. Le Christ aimait l'amour. Il pratiquait le bien sans aucune motivation égoïste. Au contraire, il agissait ainsi parce qu'il aimait les hommes et désirait le meilleur pour eux. Quel modèle, quel idéal à rechercher. Mon bon ami qui m'écoutait, permettez-moi de vous lire le chapitre de relations humaines par excellence. C'est 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 7. Je dis, chapitre des relations humaines par excellence. Écoutons. Quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un hurin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Il n'est pas présomptueux. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'aigrit pas. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 7, version les synodales. Amis qui m'écoutez, c'est moi qui vous parle. Retenez bien ceci, que votre frère qui vous parle est encore bien loin de réaliser cet idéal parfait de relations humaines. Très, 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 très loin. Et j'estime que vous êtes plus pro- vous en êtes plus proche que moi.
Cependant, nous devons faire un effort pour nous rattraper, pour nous y rapprocher un peu plus, afin que notre caractère ressemble mieux à celui de notre Sauveur qui nous a si aimés au point qu'il a donné sa vie pour nous, afin que n'importe quel individu de bonne volonté qui pratique ces choses ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, néanmoins la foi en Jésus-Christ. Le Nouveau Testament fait appel à plusieurs termes distincts. Tous traduisent « amour ». L'un exprime l'amour pour ses amis. L'autre est surtout utilisé dans le contexte de l'amour sexuel. Ces types d'amour n'ont rien d'inférieur. Ils sont destinés à représenter des aspects vitaux et enrichissants de la vie humaine lorsqu'ils se manifestent au bon moment et au bon endroit. Mais il existe un terme spécifique dans la Bible, agapé, pour désigner l'amour que Dieu éprouve pour nous. C'est ce type d'amour que nous devons nous aussi cultiver dans notre vie en tant qu'amour fondateur de tous nos échanges avec autrui. Un amour désintéressé qui place le bien d'autrui avant le nôtre. Un amour que la vie du Christ nous a révélé à la perfection. À la vérité, une seule façon d'y arriver, c'est de demeurer en Christ. Comme il a dit, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Personne ne peut rien faire s'il ne demeure attaché au cèpe. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ainsi, mon bien-aimé, si nous deux arrivons à demeurer vraiment en Christ, nos relations seront parfaites. Tout de même, surprise. Oui, surprise. Vous allez dire, où se trouve cette surprise? Dans Luc 14, verset 26, nous lisons quelque chose de vraiment inhabituel. Luc 14, verset 26. Qu'est-ce qui est écrit alors et qui a surpris Frère Verne? Jésus qui dit, si quelqu'un vient après moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Haïr son père, sa mère, ses frères, ses disciples, sa femme, ses enfants, pour devenir disciple de Jésus. Cela est vraiment inhabituel. À la vérité, la vie chrétienne est une question de priorité. Si nous faisons passer en premier notre personne et nos intérêts propres, nous ne menons pas une vie chrétienne, mais une existence païenne. C'est pourquoi, sur notre terre, les personnes les plus malheureuses sont des personnes égoïstes, sont des égoïstes. En effet, elles souffrent littéralement, et elles disent n'être pas responsables de leur souffrance, mais plutôt, elles rendent les autres responsables. Et pourtant, la cause de leurs maux, c'est elles-mêmes. Oui, je le répète, les personnes égoïstes sont les plus malheureuses de la terre et aussi les plus grands souffrants. Maintenant, amis qui m'écoutez, une question. Que signifie haïr nos bien-aimés par amour pour le Christ? L'emploi que les Écritures font de ce mot montre clairement qu'il ne s'agit pas de haïr au sens habituel du terme. Dans la Bible, ce verbe devrait souvent être compris comme une hyperbole. Hyperbole, H-Y-P-E-R-B-O-L-E, c'est une figure de grammaire. Il consiste, ou plutôt, c'est un procédé qui consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression. Une hyperbole, c'est un procédé qui consiste à exagérer l'expression pour produire une forte impression. Par exemple, d'un homme de haute taille, nous disons, il est un géant. D'un homme de très petite taille, nous disons, il est un pygmée. Mais au fond, l'homme de haute taille n'est pas vraiment un géant.
C'est juste pour montrer comment sa taille est admirable, etc. Alors, c'est ainsi aussi qu'il faut prendre du 14:26. Haïr les siens pour aimer le Christ. Haïr, c'est pas vraiment avoir du rancœur contre eux ou bien de la rancune, les jeter, les excuser loin de nous. Moins. Mais plutôt, nous devons les aimer moins. Ou encore, aimer le Christ plus et aimer les nôtres moins. En ce sens, nous mènerons une bonne relation. En effet, Dieu d'abord, Dieu avant mon père, avant ma mère, oui, et mes enfants face à moi-même, Dieu d'abord pour eux, ensuite moi-même, s'ils veulent le considérer ainsi. Mais, quel que soit le temps, les circonstances, le lieu ou la place, Dieu d'abord, c'est pourquoi il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Créer pour vivre ensemble, c'est un principe, car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il est dit dans Jean 4, verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Je vais vous quitter en attendant de vous rencontrer le week-end prochain. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que vous et moi allons faire les efforts nécessaires pour pouvoir être de bons prochains, de bons compagnons, de bons amis. Et alors, notre religion aura du sens et de la valeur. Dieu en sera glorifié. Les hommes en seront satisfaits. Nous aussi en éprouverons grand contentement. Et alors, la joie, c'est source de santé. Nous nous porterons bien. Nous nous porterons bien. Car beaucoup de personnes sont malades et arrivent même jusqu'à la mort parce qu'elles n'ont pas de relations sociales harmonieuses. Chrétien, que Dieu vous garde.
Malgré mon avidité, tout le temps, j'invite, il m'a montré, il enlève mon esprit, mon amour.
Notre Père et notre Dieu, tu es vraiment bon pour tes enfants. Tu te soucies de tous les aspects de notre existence. Tu ne te contentes pas de nous attirer à toi, mais tu veux aussi nous rapprocher les uns avec les autres. Nous voulons te dire merci d'avoir créé l'homme pour vivre ensemble. Parce que entre nous, les uns avec les autres, nous nous sentons plus édifiants, plus confiants, nous nous portons mieux. Mais quand nous sommes seuls, nous sommes vraiment malades, car tu ne nous as pas créés pour la solitude. Accorde-nous d'aimer ta parole, de vivre selon tes prescriptions, afin que notre religion soit vraiment équilibrée, une religion qui consiste à aimer Dieu de tout son cœur et à aimer son prochain comme soi-même. Crée en nous cet amour afin qu'effectivement nous arrivions à l'humanité. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.